Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Et en direct, et seulement en direct.
Et sans filet.
Et sans filet, sans rien.
Ça se voit,
sans rien, tout nu.
Ouais, voilà. Sans filet.
Par Jupiter. Et...
sang, il y a plein de sang.
Voilà.
Parfois c'est sans feuilles. Parfois je.
Voilà. Sans talent des fois.
Et sans oui, talent, ouais.
Souvent. Mais toujours avec des blagues. En
voilà.
Tout cas,
allez,
merci.
Je vous aide, ça m'étonne.
Merci, alors, Laetitia Gaillet.
Ciao.
La semaine dernière, dans le bureau de Par Jupiter.
Clara, Guillaume, ouais. Je voulais voir avec vous.
Oui.
Concernant la liste des dictateurs.
La liste des...
Ah, le livre d'Olivier Guèze sur les dictatures du XXe siècle.
Ah, mortel, ah ouais.
Ouais, mortel,
ouais.
C'est le mot.
Ouais.
Alors, vu que le bouquin nous intéresse tous, on va se répartir les dictateurs.
Oh, ouais, bonne idée, ouais, trop bien.
Alors moi, bon, je prends Franco.
Ouais.
Bah, déjà, je maîtrise assez bien la langue de Cervantes. Et puis, j'adore Almodovar.
Ok, alors moi, je voudrais Ceausescu. Parce qu'il s'était fait construire un palace de Maboule. C'est Balkany, mais en roumain, j'adore ça, moi.
Bon, alors moi je m'attrape Mao, okay. Parce que mon papa il était maoïste, et Staline parce que mon papy était stalinien.
Ah non mais vas-y, c'est du népotisme ça, à base de les filles d'eux sont privilégiées, non, attends.
Bon bah sois pas jaloux, hein. T'as qu'à prendre Mussolini, t'adores les pâtes au pesto.
Bon ok, et qui prend Hitler?
Je voudrais pas dire, mais enfin moi j'ai fait allemand élevé. Hein,
Bah non, c'est pas un argument, moi dans ce cas-là, je te trouve un grand-père milicien.
Mais c'est toujours lui qui a les meilleurs trucs.
Ah, non, mais bon.
On commençait pas, hein. Vu mon ancienneté dans ce bureau, je pense qu'Hitler c'est pour moi.
Non, attends, déjà je regrette, Hitler il est à tout le monde.
Ok, on va régler ça dans le couloir,
okay.
On tire Hitler à la courte paille.
Ok, d'accord.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
On tire Hitler à la courte paille.
Ouais. Je peux pas vous laisser deux minutes là, c'est pas possible.
Mais
ça veut dire quoi tirer Hitler à la courte paille?
C'est parce qu'on veut tous faire Hitler.
Bah, oui.
Mais enfin, il y en a plein d'autres de bien des dictateurs. Ben, Olja là, il est super par exemple.
L'Albanais, mais personne sait qui c'est.
Et les trois Kim alors?
Oh non,
Kim sans Kardashian, tout le monde s'en fout.
Bah, oui, okay, oui,
très
oui,
bien, alors fini la récré, là ça suffit les conneries. Oh. C'est qui le chef de l'émission?
Toi.
Alors c'est qui fait Hitler?
Toi.
Voilà, rompez. Ma grand-mère qui va être contente. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tout vient à PowerPoint, à qui c'est attendre. Voici le menu du food truck dont Juliette s'est occupée de l'entrée.
En retirant les troupes américaines du nord de la Syrie, Donald Trump laisse les Kurdes seuls face à l'armée turque et donc prêts à tomber dans les bras de Bachar el-Assad, donc ceux de Vladimir Poutine. Alors, allons-nous à l'ONU, qu'est-ce qu'on dit de Trump et de son coup de maître?
Pas une foule des grelots, il était fou, il est devenu dangereux.
Aujourd'hui, le tombeau de Franco est plus fréquenté que la tombe de Jim Morrison, nous dit El País, car la dépouille du caudillo sera bientôt exhumée de son mausolée pour être enterrée dans un cimetière municipal et couper court à la dimension monumentale de l'hommage qui lui est rendu depuis 1975.
Nous n'avons pas encore fini avec lui.
Oui, mais lui, il en a fini avec nous. Il a été enterré 3 fois.
Les championnats du monde d'athlétisme au Qatar nous ont donné un aperçu des dégâts. Hérésie écologique, athlète suffocant, création à la hâte de toilettes pour femmes. Vous n'y avez pas pensé.
C'est vrai.
Et donc maintenant, on fait comment pour la prochaine Coupe du monde de foot Qatar 2022?
Mais mon enfant, je vous répète, vous êtes libre. Alors allez faire votre football chez les Grecs.
Elle a choisi un triumvirat de chroniqueurs, c'est Juliette Arnaud.
Oui, une équipe qui a la passion démocratique chevillée au corps, celui qui, bien sûr, ne vibre que de passion démocratique tout en sachant que quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent et lui, eh ben, il fait pas 60 kilos. Chewbacca.
Mais pas 130 non plus, heureusement, parce que là, ça serait grave. Mais
si, en comptant les tatouages.
Ah ben non, même pas. Mais bon, j'y arriverai un jour, sans doute. On va parler du Liban aujourd'hui et de musiciens de là-bas.
Très bien. Ensuite, nous aurons celui qui, sans sceptre ni bâton de maréchal, sème la terreur sur les marchés parisiens et inspire un culte de la personnalité chez les étudiantes en lettres sociaux première année.
Ça, c'est
Guillaume
vrai.
Leris.
Oui, il y a du vrai. Je vais vous parler de coworking aujourd'hui. Ça va vous plaire beaucoup, Charline. Il y a tout ce que vous aimez.
Systématiquement, assez souvent, il y a un open space.
Oh là là, ouais, le bonheur, bah, oui, le bonheur.
Ça va être le pied. Celle, enfin, qui n'a rien contre la 5e République, mais qui, et je la cite, « La République, c'est Mims, mais enfin, ça manque de reine, cette affaire. » Clara Dupont-Moulin.
Bonsoir, je vais vous parler du livre de notre invité.
Et voici celui qui va remettre les pendules de l'open space à l'heure. Je vous laisse nous annoncer de votre voix grave qui vous êtes. Vous êtes...
Je suis Olivier Guèze, le directeur des dictateurs.
Oh là là,
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Olivier Guez, bonjour et merci d'être avec nous.
Merci à vous.
On va passer une heure ensemble à parler de dictature et de foot. Et peut-être qu'il y a un lien entre les deux.
Peut-être.
Certainement. Vos deux passions. Alors, vous dirigez un ouvrage intitulé « Le siècle des dictateurs » paru chez Perrin, coédition Le Point. Sur le rabat de la couverture, quand on l'ouvre, il y a une liste de 22 noms de dictateurs. Sur l'autre rabat, la quatrième de couverture, il y a une liste de noms de 22 historiens. Une liste de dictateurs qui fait face, en regard parfait, à une liste du même nombre d'historiens. C'est l'illustration matérielle de votre démarche. Laquelle ?
Alors déjà, il ne faut pas confondre les deux pages, les dictateurs et les historiens. Oui, l'idée de ce livre était finalement de raconter d'une autre manière le XXe siècle et finalement en racontant ce siècle à travers l'un des phénomènes majeurs de ce siècle qui est l'émergence et la multiplication des dictateurs et des dictatures aux quatre coins de la planète. Mmh. Et donc, on est allé chercher parmi les meilleurs spécialistes de chaque dictateur pour nous raconter en une espèce de 30-40 pages, l'histoire de ces hommes.
Mmh. Et les meilleurs dictateurs même, parce qu'il y en a 22, mais il y en a beaucoup plus.
Ouais.
Il a fallu faire un choix.
Non, oui, il a fallu faire un choix.
Qu'est-ce qui présidait ce choix ?
À la fois raconter cette histoire-là, c'est-à-dire vraiment les deux vagues finalement de dictateurs. La première, après la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale voit la disparition des grands empires européens, et donc qui dit disparition de grands empires dit chaos, et donc émergence d'hommes forts avec des solutions simples dans des conditions très compliquées. Et donc c'est la première vague européenne. Et puis la deuxième vague, c'est la disparition des grands empires coloniaux, belges, entre autres.
Avec Mobutu.
Voilà, français, britanniques, hollandais, là aussi chaos. Émergence d'hommes forts, et donc on a aussi voulu raconter cette autre histoire-là. Donc on a d'abord des Européens, et puis après on a des Asiatiques, des Africains, des Sud-Américains, qui épousent finalement à peu près l'histoire du XXe siècle. Alors oui, il en manque quelques-uns, mais en fait on s'est rendu compte que la dictature était peut-être davantage la règle que l'exception au XXe siècle, et donc on aurait pu faire deux tomes, trois tomes, ou faire un livre de 2000 pages, parce que quasiment tous les dirigeants africains de l'après-décolonisation sont des dictateurs. L'immense majorité des dirigeants du Moyen-Orient sont des dictateurs. En Asie, c'est pareil. Et en Amérique du Sud, il y en a eu énormément pendant tout le XXe siècle, sans compter l'Europe. Donc ça fait beaucoup quand même.
Mmh. Alors, Juliette, vous avez laissé des spécialistes de chaque dictateur s'occuper chapitre par chapitre des dictateurs. Vous vous chargez de la préface et je lisais la préface, mais après avoir lu les dictateurs, et j'avais passé ma lecture à me dire, mais finalement, quels sont leurs points communs? Ils en ont un certain nombre, mais ça marche pas à chaque fois. Il y a un truc qui marche à chaque fois, et c'est pas moi la féministe qui le dit, c'est vous. Le seul vrai point commun qu'ils ont tous, c'est que ce sont des mecs.
Absolument. Oui, c'est difficile de le cacher. Non, mais c'est normal, au XXe siècle, en tout cas une bonne partie du XXe siècle, la femme est très très éloignée du champ politique. D'ailleurs, la plupart, en tout cas au moins la moitié du siècle, elle ne vote pas. Et on est dans le culte de cet homme fort, d'abord en Europe, la première partie du XXe siècle, et puis au fond, la deuxième partie, les dictateurs du tiers-monde vont singer les dictateurs européens de la première moitié du XXe siècle. Donc il n'y a pas de femmes.
Il y avait un peu Imelda Marcos quand même aux Philippines, non ?
Oui,
un
elle peu, a été vraiment associée au pouvoir de son mari. Il y a eu des impératrices par le passé, plus ou moins dictatoriales, des impératrices byzantines, des reines égyptiennes, des impératrices russes, mais au XXe siècle, il n'y a pas de dictatrice. Alors peut-être que le deuxième tome dans 100 ans, il y aura le siècle des dictatrices, ça c'est
possible.
Mais on
ne sera pas là pour le voir.
Il y a peu de chance.
Alors, c'est un ouvrage qu'il est bon de lire aujourd'hui, et même aujourd'hui précisément, en ce jeudi, car nous sommes réveillés ce matin avec une carte postale de Kim Jong-un, chevauchant un cheval blanc, et si on ne connaît pas, si on n'ouvre pas par exemple le chapitre consacré au Kim, et que si on ne va pas voir l'histoire de cette dictature, on ne peut pas déchiffrer le message qu'il essaye de faire passer, Kim Jong-un, avec son cheval blanc.
Non, complètement. Alors moi j'avoue, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Corée, donc j'ai appris plein de choses avec ce livre, avec les chapitres. Mais la succession des trois Kim est quand même assez fascinante, et on voit bien. Lorsque finalement un fils succède à son père dictateur, là c'est même le petit-fils, il y a une espèce de surenchère à chaque fois. Il faut tenir, il faut montrer finalement qu'on est encore plus fort que son père et encore beaucoup plus fort que le grand-père. Donc tout ça fait partie de... Lorsqu'il arrive sur un cheval blanc, il y a finalement, on se rend compte dans chaque chapitre ou dans ma préface, il y a cette partie de mise en scène qui est très importante. Donc là arrive le dictateur tout seul sur son cheval blanc qui... Et d'après ce que j'ai compris, donc il va nous annoncer quelque chose de très important. En fait. Il y a à la fois le message et le messager, ce qui est vraiment le propre des dictateurs.
Oui. Olivier Guez, vous avez un rapport curieux à la dictature. Vous aviez un poster de Saddam Hussein sur la porte de votre chambre dans la résidence universitaire.
Oui, j'ai profité de cette préface pour faire mon coming out. En fait. Donc moi j'ai fait des études un peu à droite à gauche en Belgique, en Angleterre, en France notamment, et l'année où j'étais à Londres, à la London School of Economics, Deng Xiaoping est mort. Et donc, j'ai acheté Libé le lendemain. Il y avait toujours ce que fait quand même de mieux Libé, à savoir des nécros, de magnifiques photos de une. Ouais. Et il y avait une photo incroyable du petit timonier. Je suis allé courir à l'autre bout de mon couloir chez mon voisin pakistanais. Je lui ai dit quand même, c'est incroyable. Et on est tombés d'accord tous les deux pour faire un corridor de la dictature. Ce qui était là, j'avais... Ouais. J'avais pas 8 ans, mais enfin, j'étais pas très très vieux non plus. Et donc, on a organisé ce corridor de la dictature. Alors, c'était un corridor politiquement correct quand même. Il n'y avait pas tous les méchants, les noirs et les bruns, je parle des dictateurs. Ouais. Et donc, on avait quasiment, oui, une bonne partie des dictateurs de gauche ou d'extrême gauche. Et effectivement, puisque à l'époque, je m'intéressais beaucoup au Moyen-Orient, c'est ce que j'étudiais, j'avais un grand poster de Saddam Hussein sur ma porte qui est resté... plusieurs mois. J'ai honte.
Non, Guillaume Meurice, il l'a toujours le sien.
Rapport au dictateur, et on rappelle aussi...
C'est vous qui l'avez acheté sur eBay. Ouais. Il est très beau.
On rappelle aussi que vous avez été couronné du prix Renaudot en 2017 pour La disparition de Joseph Mengele aux éditions Grasset. Ouais. Un roman qu'on a tous adoré ici autour de la table. Olivier Guez est avec nous. On va parler donc dictature encore, n'est-ce pas?
Ouais,
Juliette et Clara, bah bien sûr, évidemment. Avec Guillaume et Djoubaka pour nous apaiser avec la musique. Vous avez fait des études à Brighton, je pense.
Ouais. J'ai passé un an d'Erasmus à Brighton.
Allez, on appelle Londres avec les Clash.
London.
On veut du punk, c'est France Inter, par Jupiter.
On veut que Joe Stromae soit toujours vivant.
Oui, alors là, c'est compliqué.
C'est plus compliqué. Ouais. Olivier Guèze est bien vivant, lui, il est avec nous. Et il a dirigé un ouvrage qui s'intitule « Le siècle des dictateurs » paru chez Perrin, dont nous parlons jusqu'à 18h. Pour entourer Olivier Guèze...
Bien, il y aura Clara Dupont-Bonneau, que je cite d'abord parce que c'est ma préférée. Il y aura également Djoubaka et Guillaume Meurice, que je déteste.
Et de l'information.
Pardon, excusez-moi.
Vous savez, on m'a toujours dépeint comme le plus dur de la bande. Je le dis pour... Johnson.
Le journal de presque 17h17.
Fini les petites mesures, les petites décisions, les traités de paix. Je vais raser le continent.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on évoque...
Le voile, les femmes voilées. Ok, les femmes avec un voile.
Non.
Un voile.
On évoquera Gérard Larcher.
Gérard Larcher avec un voile.
Non. Bon. Non, alors on parlera aussi...
Du voile, les femmes qui mettent un voile. On parlera
de
ça.
Non, de Xavier Dupont de Ligonnès.
Ok, avec un voile ou pas?
Non, calmez-vous, écoutez. Et enfin, on parlera du voile.
Non, sans déconner. Vous non, rigolez pas?
Pas du tout, non.
Oh putain, ça va être super. J'adore les débats sur le voile.
Bon, on commence avec la politique.
Oui, avec les municipales à Nice, un sondage annonce que Christian Estrosi creuse l'écart devant Éric Ciotti.
Coup dur pour Éric Ciotti qui, après la campagne, va devoir mettre...
Mettre les voiles. Il va mettre les voiles, c'est
les
ça
voiles, les voiles, exactement.
Excellent.
Voilà. Politique toujours, au Japon. Emmanuel Macron sera représenté lors de l'intronisation de l'empereur Naruhito par Nicolas Sarkozy.
Et le pays où le déshonneur se règle en se suicidant. Donc, adieu Nico. Ara, qui rira bien, qui rira le dernier.
Politique encore.
Oui, des députés veulent taxer la charcuterie au sel de nitrite qui donne une belle couleur rose à la charcuterie.
Donc. Oui, ça c'est un véritable coup dur pour Gérard Larcher.
Ah non, vous allez encore faire une blague sur son poids.
Ah non, c'est un coup dur car les sels de nitrite, c'est aussi ce qui donne la belle couleur rose de Gégé.
Ah donc, oui, c'est vrai, il y a une belle couleur Gégé, on aime beaucoup.
Allez, médias à présent.
Encore un dérapage raciste, c'était hier sur CNews.
Ah non, qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'on ne diffuserait plus jamais d'extrait de CNews.
Ah ouais, c'est vrai, on a dit ça hier. LCI, on peut ou pas?
Ah là, on peut, ouais.
On peut, c'est vrai? Ouais. Allez, cool, on y va alors.
Est-ce qu'il ne faudrait pas le déplacer et dire c'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique comme on interdit un uniforme SS tout simplement. Voilà.
Ah, c'est mieux que CNews, les débats sur le voile, sur LCI.
Ils vont nous faire regretter CNews.
Ouais, hein, et n'oubliez pas que désormais, la chaîne d'infos en continu la plus modérée, c'est BFM TV.
C'est beau. International à présent, l'opération militaire lancée par Erdogan dans le nord de la Syrie s'appelle Source de paix.
Oui, et le sous-titre de cette opération est sans aucun doute Estuaire du foutage de gueule.
Le Vatican dévoile un chapelet connecté vendu 99€.
Au nom d'Apple, d'SFR et du Saint Wi-Fi.
Amen, le pognon.
International encore.
La semaine dernière, un Japonais sorti fumer devant son hôtel à Paris s'était fait voler sa montre estimée à 800 000€ et on apprend aujourd'hui que c'était une fausse.
Et oui, il s'agissait de la montre de Xavier Dupont de Ligonnès.
Écologie à présent. Les SUV sont à l'origine de la deuxième plus grosse hausse de CO2 dans le monde et donc d'une chute de la biodiversité.
C'est vrai, les gros cons menacent la survie des faucons.
Voilà. Et cœur sur eux avec toutes les pubs de SUV sur France Inter.
Oui, merci pour l'argent.
Des chercheurs allemands ont mesuré la foulée de la fourmi argentée dans le désert du Sahara qui va à la vitesse de 855 mm par seconde dans ce désert.
Une enquête qui prouve que les chercheurs ont beaucoup, mais alors beaucoup trop de temps libre.
Merci Guillaume.
Je vous en prie, à votre service.
17h25 à Paris et à Strasbourg. Olivier Guèze entre dans notre compagnie et on va aborder, Juliette, ce premier sujet de cette émission spéciale Dictature et Foot.
Alors, vu que tout le monde était bien satisfait des loyaux services des Kurdes pour lutter contre Daesh et pour remerciement, Trump décide que le pique-nique est fini et remballe ses militaires. Erdogan le prend comme une invitation à récupérer son Lebensraum. Bachar el-Assad se refait la fraise en se posant comme l'allié des Kurdes. Et juste derrière Bachar, il y a Vladimir. Ils nous font pas une jolie Corée, ces quatre-là. Manque peut-être une chanson.
Oui,
alors, c'est un article du Soir qui s'appelle « Quand Trump provoque le triomphe d'Assad, Poutine et Erdogan ». Et juste avant, c'était
sur une
bande son
de Philippe Catherine, voilà.
Une chanson qui s'appelle « Les dictateurs », comme vous l'avez forcément entendu. Donc oui, c'est une onde de choc que ça provoque. Et le Soir s'interroge sur les gagnants et les perdants de cette histoire. Dans votre livre sur le siècle des dictateurs, Olivier Guèze, il n'y en a que deux qui sont encore aux affaires. C'est l'héritier Kim et Bachar el-Assad, qui semble, effectivement, comme je le disais en introduction, semble pouvoir se refaire un petit peu la fraise face aux Occidentaux en se mettant du côté des Kurdes. C'est embêtant. On le refait, ce chapitre sur Bachar el-Assad, ou pas?
Non, mais ça fait longtemps qu'il a repris, qu'il s'est refait la fraise, comme vous dites. Enfin, qu'il a repris. Enfin, il y a 8 ans et demi, quand la guerre civile a commencé en Syrie, personne n'aurait mis un copec sur Bachar el-Assad. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Mais en fait, au fond, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, l'Occident a décidé de laisser un dictateur en place. Dans le sens où, au Moyen-Orient, finalement, depuis le début du XXIe siècle, les Américains avaient chassé Saddam, bon, ça s'était très mal passé, les Français, notamment les Occidentaux, avaient décidé de chasser Kadhafi, ça s'était pas très bien passé non plus, et finalement, Obama l'a laissé au pouvoir. Et c'est ça le grand tournant. Et depuis ce moment-là, et ça s'est encore amplifié avec Trump, les Russes, finalement, remplissent le vide laissé par les Américains. Quant aux Européens, ils sont totalement absents. Donc, oui, les Kurdes, vous savez, c'est la réelle politique. Hein. De toute façon, Bachar el-Assad, son rêve depuis le départ, c'est de reprendre, de revenir aux frontières d'avant la guerre civile.
Il est en train
d'y arriver sous protectorat russe et un petit peu iranien.
Et alors, justement, il y a dans le chapitre sur Saddam Hussein, vous dites que l'invasion américaine de 2003, fondée sur des mensonges, donc l'invasion en Irak, constitue le péché originel du 21e siècle.
Tout à fait.
Là, on reproche à Trump de se retirer, comme on reprochait au gouvernement américain de 2003, d'envahir. En fait, ça pourrait donner l'impression que quoi qu'ils fassent, de toute façon, les Américains, on leur reproche de faire des choses foireuses.
Alors ça, c'est une vision possible. Après, on peut regarder cas par cas. Ce qui s'est passé en 2003, probablement, c'est que pour lancer le début du XXIe siècle, on a chassé un dictateur du XXe siècle. Et en fait, il y a eu ce basculement. Et surtout, l'après-guerre n'a pas du tout été préparée. Donc ça a donné la catastrophe qui, finalement, a déstabilisé tout le Moyen-Orient. Et la Syrie est aussi une espèce de ricochet de la crise de 2003. Aujourd'hui, les Américains n'étaient pas du tout dans le rôle de l'Irak de 2003 en Syrie. Simplement, ils ont décidé de se retirer, puisque les États-Unis se retirent au fur et à mesure de la plupart des zones du monde où ils étaient très présents. Et nous, Européens, on devrait vraiment y songer très sérieusement, parce qu'un jour, je pense que les Américains quitteront peut-être totalement l'Europe. Et donc, de ce vide-là, les Russes qui n'attendent que ça, eh bien, ce sont... Mais ce n'est pas du tout des situations comparables.
L'article du Soir s'intitule « Quand Trump provoque le triomphe d'Assad, de Poutine et d'Erdogan ». Et de toute façon, on voit bien dans la situation actuelle que ce sont les 4 noms du dossier et bien 4 sûr. Autocrates. Mais où est la frontière avec la dictature? Est-ce que ce sont 4 dictateurs potentiels du XXIe siècle ou
Oui, ce sont 4 dictateurs potentiels du XXIe siècle. Trump, c'est un cas à part. C'est la démocratie américaine. La démocratie américaine, elle vit des heures quand même très compliquées. Elle est en train de muter. Mais ça reste encore une démocratie.
C'est-à-dire que Trump, il aurait la couleur, le goût et l'odeur d'un potentiel dictateur, mais il n'a pas les moyens.
La différence entre Trump et la plupart de ses prédécesseurs, c'est que les Américains, aujourd'hui, ne défendent plus la famille libérale, ne sont plus les garants d'une certaine idée de l'Occident, de la démocratie, avec toutes les bêtises qu'ils ont pu faire, que ce soit en Irak ou ailleurs. Mais quelque part, il y avait quand même un chef de file occidental. Ce chef de file n'existe quasiment plus. Mais ça reste une démocratie, très malade, mais ça reste une démocratie. Quant aux autres, oui, ce sont ou des apprentis dictateurs ou déjà des dictateurs. Après, il faudrait voir. Moi, je suis avant tout romancier, donc je ne connais pas exactement ce qui se passe dans la Turquie d'Erdogan, dans la Russie de Poutine. Mais de loin ou d'assez loin, il est clair qu'ils se comportent comme des dictateurs du XXIe siècle, ce qui est différent des dictateurs du XXe siècle qu'il y a dans le livre. Je pense que l'une des choses les plus différentes, finalement, comme on est dans une économie qui est totalement interconnectée, il y a une ouverture, et notamment il y a cette possibilité de consommer. aujourd'hui, une dictature qui ne permettrait pas de consommer à ses citoyens ne pourrait pas fonctionner. Mmh. Bah, la Corée du Nord, c'est autre chose, mais là, c'est un régime totalitaire, totalement fermé, donc c'est autre chose. Mais vous avez cette espèce de triptyque qu'on retrouve vraiment aujourd'hui à peu près partout dans, chez ces apprentis dictateurs, basé sur la consommation, l'identité et la sécurité. Et ces trois-là correspondent exactement, en tout cas, tournent autour de ces piliers.
Alors, le chapitre consacré au Assad père et fils s'intitule comme ça par Bernard Bajolet et Saddam Hussein, le voyou de Bagdad par Jérémy André. Car chaque dictateur est pris en main par un historien ou un journaliste et écrivain. Dans Le siècle des dictateurs, paru chez Perrin, sous la direction d'Olivier Guez, qui est notre invité. Et Djoubaka est parmi nous. Pour vous nous emmenez où,
Djoubaka ? Non, mais c'est la fête, là. Ouais. Moi, j'entends tout ça, c'est super. Alors, je vais vous dire un peu aussi que parfois, la musique, c'est de la géopolitique. Alors, il y a maintenant fort longtemps, je faisais pas encore 130 kilos, lorsque les musiciens du métro avaient encore pour nom à Paris les buskers, parce que ça faisait classe, c'est-à-dire musiciens ambulants en anglais. Votre serviteur les accompagnait, mais pas à la guitare ni avec aucun instrument, parce que je sais pas trop en jouer à part de la scie. Mais j'avais un boulot super, je protégeais la caisse et faisais en sorte que le chapeau se remplisse, quoi. Si vous donniez un chewing-gum et un clou, je la prenais mal en général, quoi. Donc le soir, il y avait deux troquets du côté de Saint-Michel qui accueillaient ces icônes du métro. On y allait, les poches remplies de pièces jaunes, et on allait échanger tout ça avec le patron du bar. On prenait un coup en passant, mais c'était quand même notre banque. Et là, à part les habitués du souterrain qui avaient leur place réservée, leur station attitrée, leurs horaires privilégiés, il y avait régulièrement les nouveaux venus à qui il fallait bien faire une place parce qu'ils étaient pauvres comme un chien plein de puces. Et dans les années 80, chaque conflit nous envoyait leur lot de malheureux, le Pérou, le Nicaragua, le Guatemala, et ça causait Spanish à mort, ce qui n'était pas mon cas. Et il fallait connaître ces classiques de chansons révolutionnaires et des Andes à la flûte et tout ça. Et à part l'Amérique latine, bien sûr, il y avait la troisième guerre du Liban qui commençait. Et les musiciens du métro à cette époque, c'était un peu la carte des conflits ramenée à une échelle humaine. Et certains Libanais étaient là depuis un petit moment, puisqu'il y a eu une première vague dans les années 70. Ils sont arrivés au milieu des années 70. Et parmi eux, il y a un musicien qui s'appelle Issam Adjali, qui plus tard aura un groupe vraiment culte au Liban, les Ferkat al-Ard. Mais donc auparavant, notre bonhomme avait débarqué à Paris, fuyant le conflit libanais avec la Syrie, tiens donc. Et puis il va rester un an en exil en 77. Et au milieu de sa galère, bah, le seul moyen de se payer un truc chaud une nuit dans un lit, c'était d'aller faire le busker dans le métro, faire la manche, quoi. Mais son envie d'enregistrer des disques était tenace. Et un jour, il a réussi à trouver assez d'argent pour se payer un seul jour de studio où il devait enregistrer tout un album. Donc il se ramène avec les musiciens français, iraniens, algériens et libanais. Je vous demande pas où il les a trouvés, c'est roule ma poule, quoi. Et un jour, un disque. À la fin de l'année 77, il retourne au Liban, mais les labels en temps de guerre, il n'y en a pas, et on a beaucoup de mal à fabriquer des disques, ou tout simplement à exister. Donc Issam Adjali va donc copier son disque sur cassette audio. Il va en faire une centaine qu'il va distribuer autour de lui, et il n'en conservera qu'une seule, qui va servir à l'édition de ce disque caché pendant plus de 40 ans. Alors vous me direz, mais qui a bien voulu remettre la main sur ces enregistrements ? Eh ben, on le doit à un label allemand situé à Berlin qui s'appelle Habibi Funk et qui s'est donné pour mission, en fait, de rendre ces petits trésors oubliés publics. Alors le mec s'appelle Janis Swert, c'est le patron du label, il est aussi DJ et puis il se déplace, il fait un peu le détective. Et des fois, comme ça, quand on recherche les musiciens, on entend parler des gens par saut de puce. Et il y a 3 ans, il est à Beyrouth. Et puis il tombe sur un blog où il y a une toute petite interview de ce garçon où il apprend que, quand même, Issam Adjali tient une boutique rue Mas Elias à Beyrouth. Alors là, il se dit, c'est le Graal, je vais y arriver, etc. quoi. Il est franchement content. Tout va bien jusqu'à temps qu'il arrive au début de la rue qui fait quand même une borne, 1 kilomètre, et des boutiques, il y en a un peu tous les 3 mètres. Donc là, faut de la patience, faut causer, boire le thé, et puis finalement, il rencontre un type qui connaît le type. Et moi, j'aurais adoré voir la tête d'Issam Adjali quand il l'a vu débarquer au milieu de sa boutique de bijoux népalais, l'allemand. Voilà, le berlinois qui en connaissait plus sur lui que n'importe quelle fiche Wikipédia, vu qu'il n'y en a pas sur le chanteur. Et la musique, c'est aussi ses histoires, et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc cet album a été enregistré il y a 40 ans, a jamais été réellement publié. Il a un nom hyper compliqué, surtout avec mon arabophone, mais je vais quand même essayer de vous le faire parce que je me suis fait aider. Ça s'appelle Moussalet Illa Jaked El Arn. C'est un peu groovy. Ça ressemble un peu à une bande originale d'un film de l'époque. Il y a du jazz, du folk. Le ton est mélancolique. Maintenant, vous savez pourquoi. Et c'est beau comme ce titre qui s'appelle Cops.
Baka, vous pouvez nous rappeler qui on écoute ?
Alors, il s'appelle Issam Adjali et le titre qu'on vient d'écouter, c'est Cops. Et le label, eh ben, vous l'aurez tout de suite reconnu puisque c'est Habibi Funk. C'est
ah ben, bon, j'ai reconnu tout de suite.
Bah, bien, hein, vous saviez ça.
Merci, Djou Baka. Vous écoutez France Inter. Il est 17h38. Nous sommes en compagnie d'Olivier Guez qui dirige un livre intitulé Le siècle des dictateurs, paru chez Perrin, une coédition Le Point. Olivier Guez, on va revenir sur, ça fait partie de l'actualité, l'exhumation prochaine de la dépouille de Franco, donc on va en parler. Et puis il y a aussi une polémique sur la possibilité d'ouverture d'un musée sur Salazar, le dictateur portugais. Avant cela, marchons au pas avec Guillaume Meurice.
Oui, et bien c'est la journée J'aime ma boîte. Aujourd'hui,
oui,
vous saviez
ça
ou pas?
Ouais,
c'est important. C'est une journée pour déclarer son amour à son entreprise. Vous avez fait votre petite prière ce matin à France Inter, hein, pour brûler, je vous rappelle, une photo de Patrick Cohen en écoutant du Dominica. Voilà, c'est le petit, petit rituel. Alors, n'oubliez pas le haut de boîte, hein, dans la journée J'aime ma boîte. Sinon, c'est le quotidien d'Alex Vizorek, évidemment. C'est la petite astuce. J'aime ma boîte. Donc, il valorise l'entreprise et la vie de groupe. C'est important, la vie de groupe. Regardez, par exemple, chez En Marche, c'est le bordel. Il y a Aurélien Taché qui a critiqué Blanquer. Il y a Marlène Schiappa, là, aux lames de gauche du champ point là, qui est intervenu. Il y a même Aurore Berger qui a dit qu'elle restait fidèle à ses convictions. Elle connaît même pas le mot, elle a dit un mot au pif comme ça, elle a dit sandwich, mais bon, elle a dit conviction. Bref, ça bosse pas bien ensemble et moi je suis pour l'harmonie du groupe, donc je vais vous faire une petite leçon. Je suis allé au grand rendez-vous du coworking et ça fait déjà rêver. Allez, on commence avec l'organisatrice.
Avant d'avoir fait cet événement, c'est vrai qu'on a fait un petit peu un roadshow avec notre jeune média Coworking Channel.
Un quoi ?
Un petit roadshow, enfin on est parti sur toute la France. C'est vrai qu'on est en train de vivre quand même une vraie révolution sur le coworking.
Et oui, et ça j'ai l'impression que vous n'avez pas pris conscience encore tout à fait de ça. On vit une révolution du coworking, vous saviez Olivier ça hein ?
Je suis...
Pour choper les prix Renaudot, il y a du monde hein. Mais pour faire le Robespierre de l'Open Space, il n'y a plus personne. Bon, c'est sûr. En même temps vous ne regardez pas Coworking Channel.
Si, je vais me
un petit peu, ah, c'est bien.
J'adore.
C'est bien. Et ben, vous allez suivre le roadshow, ça va être super. Bon, ouvrez bien vos oreillings, c'est parti.
On propose donc des espaces de corpo-working.
Qu'est-ce que c'est ça, le corpo-working ?
Alors, le corpo-working, c'est encore plus poussé. En fait, on propose donc de réaménager des espaces vacants au sein de grandes entreprises en créant un espace de co-working, en fait.
Donc, le corpo-working incorpore le co-working ?
Exactement, c'est ça.
Et l'inverse, non ?
C'est-à-dire ?
Le co-working n'incorpore pas le corpo-working.
Il peut.
Alors, attendez, restez. Non, mais attention. Restez bien concentrés parce que c'est que le début. Hein. Si vous lâchez au corpo working, on est mal. On va monter en puissance. D'accord? Je vous signale que maintenant, il existe le co-walking. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, ils font des réunions qui se passent en marchant dans des parcs. Co-walking. Qu'est-ce qu'elle en pense, là, cette dame, au rendez-vous du co-working?
Je pense que toute innovation dans ce domaine-là est bonne à prendre et c'est qu'il y a eu un besoin et que oui, on répond à une demande, donc oui.
Est-ce qu'on peut imaginer nager ensemble, ce serait du co-swimming ?
Ah oui, ça peut être sympa, du co-swimming du coup.
Et alors le co-siesting aussi on peut faire ?
Co-siesting, ça existe déjà je pense d'ailleurs dans des espaces de co-working. Co-resting.
Qu'est-ce que c'est ça ?
Bah, c'est du repos, quoi.
Ah oui, co-resting, pardon. Oui, je savais que vous n'étiez pas prêt à ça, le co-resting. Alors, dans les couloirs de Radio France, le co-resting, c'est assez pratiqué. Hein. Avant même l'invention du mot, on faisait la sieste. On était des pionniers là-dessus. Il y a même pas mal de co-ronfling quand on passe, parfois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie privée, c'est ringard, en gros. Votre travail, c'est votre vie.
Tout est désormais un peu croisé. Maintenant, je pense qu'il faut se préserver des zones d'intimité, de confidentialité, de resourcing, de pas être...
Qu'est-ce que c'est le resourcing ?
Du resourcing, c'est l'idée de se remettre en forme et sortir de sa boîte. C'est aussi ça, quoi. C'est out of the box, out of the square.
Out of the box, out of the square. OK, en dehors de la boîte, en dehors du square. Démerdez-vous avec ça. Voilà, parce que je regardais dans le bureau cet après-midi, vous êtes vachement dans le square quand même. Hein, Charline, franchement, ouais. Faut quitter le square, là. Hein. Vous ne travaillez plus pour le journal Le Square. Voilà, l'humour, c'est important. Également, ça aide à la cohésion du groupe. Mais en tout cas, il faut se bouger, sans compter que quoi ?
Sans compter qu'aujourd'hui, on parle aussi de co-living. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que c'est que ça, le co-living ?
Eh bien, par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'au-dessus des espaces de co-working, il y ait des chambres dans lesquelles on puisse vivre, habiter. Sur la côte ouest des États-Unis, autour de la Silicon Valley, il y a beaucoup de co-living.
Eh ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Les mecs, ils ont 30 ans d'avance. Tu vis là où tu bosses, et c'est comme ça que t'es productif, tu peux aller bosser en pyjama. Chewbacca, par exemple, il montre l'exemple, ça. Voilà, il habite dans un camping-car en bas, il vient avec les premières fringues qu'il trouve voilà, le matin, et voilà, il a pigé, c'est la révolution du co-working. Il faut travailler, mais où ?
Dans des espèces de ruches ou de lieux comme ça, où ça buzz un peu et où les gens vivent entre eux, bossent avec, entre eux, etc., etc.
On peut faire du co-living dans une ruche où ça buzz.
C'est très bien résumé.
Eh ben, écoutez, merci, c'est mon métier, merci beaucoup. Voilà, je fais ça, je synthétise un petit peu tout ce qu'il y a de meilleur dans notre société. D'ailleurs, je veux bien vous résumer davantage, je dirais, on n'arrête plus les conneries.
Merci Guillaume Meurice. Il y a beaucoup de co-walking, oui. Co-resting, co-living. Et on n'a jamais aussi peu vécu ensemble, dans le fond. C'est vrai.
C'est beau ce que vous dites, Charlie
Mollenaker. Merci, écoutez, vous m'inspirez énormément. 17h43 sur France Inter. Olivier Guez, revenons à nos moutons dictatoriaux.
Hein. Oui.
La dépouille de Franco sera bientôt exhumée. Depuis cette décision, le mausolée fait sale comble. La basilique de la vallée de Los Caídos, littéralement ceux qui sont tombés, a été construite par le travail forcé des prisonniers politiques. Ça, je l'ai appris en lisant l'ouvrage. Pour le petit dictateur bedonnant, pour qu'il repose en paix, au milieu de ceux qui sont tombés, au milieu de ses victimes enterrées dans le sol ou emmurées. Celui qui est mort tranquillement dans son lit a eu droit donc à son mausolée. Quant à l'autre dictateur de la péninsule, Salazar, il fait gronder la polémique au Portugal avec l'idée de lui consacrer un musée.
Vous connaissez ce truc qu'on dit à propos des musées grâce auxquels l'histoire reste vivante ?
Oui.
Dans ce musée, c'est le cas.
Mais qu'est-ce que vous me racontez ?
Tout ce qui est dans ce musée s'anime et revient à la vie, chaque nuit.
C'est marrant de se moquer d'une passionnée d'histoire.
La nuit au musée, un film de Sean Levy. C'est un article que nous avons trouvé dans l'ENA. L'ENA est un supplément de plusieurs journaux européens constitués de leurs articles. On peut le lire en France dans Le Figaro ou dans Le Soir de Bruxelles. Et donc, on peut y lire un article traduit en français d'El País, très symbolique pour aborder ces sujets. Il s'intitule « Dernier week-end nostalgique sur le tombeau de Franco », cet article. Non, mais c'est vrai. L'argument des gens qui viennent visiter, le journaliste nous raconte, c'est « il ne faut pas effacer l'histoire ». C'est ce que disent ces gens qui ne veulent pas du déménagement du corps de Franco. Quand on lit Le siècle des dictateurs, 22 historiens se sont penchés sur 22 dictateurs, cette phrase « il ne faut pas effacer l'histoire » par rapport au mausolée, vous en pensez quoi ?
Ben, moi, j'y suis allé à ce mausolée récemment. J'étais là-bas au mois d'avril pour le
avec
magazine, bien sûr,
ouais.
Avec toute ma famille, mes 5 enfants, en grand uniforme, et fleurir la tombe du dictateur. Non, c'est fascinant, la vallée de Los Caídos. C'est un énorme mausolée en plein milieu de la campagne castillane.
Avec une croix monumentale, ça glace le sang quand on
très, très impressionnant, c'est une espèce de gigantesque caverne, on dirait un peu le siège d'une secte, c'est très étrange. Et effectivement, Franco donc a été enterré là-bas après sa mort, tout de suite après, fin 75. Mais ce cas de la vallée de Los Caídos de Franco, c'est vraiment l'histoire de l'Espagne contemporaine. C'est-à-dire que comme beaucoup de régimes qui suivent une dictature, se posent la question, qu'est-ce qu'on fait du passé récent ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on règle des comptes ? Ou alors, est-ce qu'on pousse ça à plus tard. Mmh. Et les Espagnols ont décidé de faire une transition, ont fait une transition tout à fait pacifique, mais simplement parce que des éléments du franquiste, finalement, se sont joints aux forces démocratiques. Donc le nouveau régime a été posée par les héritiers de Franco. Et donc pendant 30 ans, on en a pas parlé. Et généralement, les questions de mémoire se reposent à partir du moment où la génération qui a participé au pouvoir de loin ou de près part à la retraite. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Le travail de mémoire en Allemagne, il commence à la fin des années 70, il commence pas avant. En tout cas, le travail de mémoire de l'État. La France, par rapport à Vichy, il a fallu attendre les années 70, voire les années 80, 90, pour qu'on se penche vraiment sur la question du passé de Vichy. Papon était encore ministre en France à la fin des années 70. L'Italie fasciste, c'est la même chose. Donc les Espagnols ont décidé d'enterrer ça pendant un temps, et... Mais ils ont loupé probablement le coche à la fin des années 2000, au début des années 2010. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su, à un moment, se mettre autour d'une table et vraiment parler de ce passé franquiste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste une question extrêmement épineuse, mais qui est aussi liée au problème des nationalités, notamment en Catalogne, au Pays Basque. Ce qui fait que l'Espagne est en train d'être... Enfin, les différentes parties de l'Espagne sont de plus en plus écartelées. On voit ce qui se passe en Catalogne ces jours-ci, justement.
Et puis l'émergence d'un parti d'extrême droite qui s'appelle Vox, que la mort de Franco est quand même encore finalement assez récente.
Assez récente, mais pas tant que ça. Je veux dire, ça fait 45 ans maintenant.
Mais les parents de la génération des gens qui ont 40 ans ont connu
Franco.
Non,
bien sûr, mais finalement l'Espagne était une exception en Europe. Il n'y avait pas de parti d'extrême droite.
Et c'est Éric Roussel, écrivain et journaliste, qui a écrit ce chapitre sur Franco.
Mais c'est vrai que là, juste deux mots sur Franco. La figure de Franco est très très intéressante parce que lui, c'est un espèce de caméléon. Il ressemble à rien, c'est un petit homme bedonnant, même lorsqu'il prend le pouvoir à la fin des années 30, mais il a suffisamment d'intelligence ou il est suffisamment pervers pour finalement systématiquement changer vaguement l'orientation de son régime. Au départ, il est associé aux fascistes, et puis il comprend très rapidement qu'il va y avoir la guerre froide, et là, il devient l'un des meilleurs amis des États-Unis. Le président Eisenhower va en Espagne dans les années 50, et effectivement, il mourra dans son lit.
Et Éric Roussel explique que c'est pas un grand visionnaire, mais il conclut son chapitre comme ça. Son génie aura été de durer par une maîtrise exceptionnelle du court terme.
Absolument.
Je note que ce chapitre est remarquablement écrit aussi, donc, parce qu'il y a des plumes, évidemment, dans cet ouvrage, et nous y venons avec Clara Dupont-Monod.
En parlant de plumes, bien sûr. Alors, l'actualité, c'est évidemment le livre donc de notre invité, Olivier Guez, Le siècle des dictateurs. Alors après avoir écrit sur Joseph Mengele, vous voici donc, Olivier, en compagnie de Mao, de Saddam Hussein, d'Hitler ou de Pinochet. L'idée, c'est que la figure du mec sympa ne vous inspire pas.
J'ai essayé.
Ça ne le fait pas. Et alors, on s'aperçoit que ces tyrans ont des points communs. Juliette en a évoqué un tout à l'heure. Ce sont tous des garçons. Ils sont souvent petits.
Oui.
Ils confondent la contestation, en fait, avec la transgression. C'est un peu ça. Et là où un démocrate pense collectif, eux, ils pensent plutôt clan. Alors, évidemment, dit comme ça, on dirait un dîner de travail chez les insoumis. Mais il y a quelque chose que les dictateurs ont bien à eux. Quelque chose d'assez inattendu. Vous dites, ce sont des auteurs de fiction. Et en effet, le tyran, il l'invente. Alors, il invente un avenir mirifique. Ça peut être le Reich millénaire, le grand soir des communistes. Ça peut être l'islam pur, etc. Il invente un ennemi imaginaire. Il invente des chiffres. Il invente des menaces. Il invente un glorieux passé. Il va jusqu'à s'inventer un nom. En fait, une sorte de pseudo, puisque Mobutu se fait appeler le grand léopard, Hitler le fureur, il y a le Duce, le petit père des peuples, etc. Et le résumé, c'est Fidel Castro qui le fait. Il racontera qu'à 10 ans, je cite, « Après l'école, au lieu de jouer, je laissais mon imagination vagabonder, j'imaginais des guerres. » Et alors là, tout est dit. En fait, le souci de vérité est au dictateur ce que la joie de vivre est à la playlist de France Inter, une donnée dispensable, quelque chose dont on peut se passer. Alors, un des exemples...
Clara Gattaz, le retour.
Bah ça, Guillaume Meurice est d'accord avec moi pour une fois. Un des exemples les plus parlants, moi que j'affectionne, c'est la famille Duvalier. Ce sont ces tyrans qui ont étranglé Haïti, qui pourtant, et vous le rappelez, a été la première république noire du monde en 1804. Elle était donc à la pointe du progrès, et avec les Duvaliers, il n'en est pas resté grand-chose. Alors François Duvalier, lui, il a choisi plusieurs pseudos. Il se fit appeler Papa Doc, le grand électrificateur des âmes, en toute modestie, et bien sûr, grande modestie, François Ier. Eh bien, il s'est fait appeler comme ça. Eh ben, pour asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une voix sourde, il a pris un costume et un chapeau noir qu'il portait tout le temps. Il a essayé de ressembler au baron Samedi, qui est en fait, dans la culture vaudou, le gardien des cimetières. Donc il s'est inventé un personnage, il a créé une fiction. Et ce que vous montrez bien dans ce livre, c'est qu'en fait, il avait tout intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce que très souvent, l'homme, avant d'être tyran, c'est quelqu'un de très transparent. On prend Tojo Hideki, par exemple, qui serra le Japon dans les années 40. Alors, pour faire court, lui, il avait le mental d'un apparatchik du PS et la carrure de Guillaume Meurice. C'est-à-dire qu'il ne ressemble à rien. Il ne pèse rien, il n'inspire rien, il ne représente rien. Et pourtant,
méfiez-vous de moi, alors.
Il précipitera la ruine de son pays. J'ai bien l'intérêt de me méfier de vous. Et en fait, parce que le réel lui a résisté, le tyran décide de le façonner. Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, le réel, il me donne des frontières trop étroites, et ben j'attaque le pays voisin pour élargir ses frontières. Le réel me donne des lois contraignantes, je change les lois. Est-ce que le réel me donne un peuple qui freinerait le récit mythique de ma patrie ? Pas de souci, j'élimine le peuple. Et comme par hasard, à chaque fois, il convoque les grands mythes. Les Romains, les Germains, la vaillance des paysans, les samouraïs, etc. Et l'écrivain Elias Canetti que vous citez a cette formule magnifique, il dit « Le dictateur est de tous les hommes celui qui veut le moins mourir ». Eh bien, et la seule espèce dont on peut dire la même chose, c'est l'écrivain. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que les écrivains sont des tyrans et que les tyrans sont des écrivains. Mais ça montre en revanche comment est-ce que la fiction peut être un outil redoutable pour asseoir une dictature et épauler un égo malade. Mal utilisée, la fiction peut être très dangereuse. Pour moi, c'est l'enseignement de ce livre. Et on le voit avec la montée des populismes européens qui, sans arrêt, inventent des menaces. On le voit avec les réseaux sociaux.
Pas que européens.
Non, pas bien sûr. Mais on le voit aussi avec les réseaux sociaux qui inventent des informations. C'est les fameuses fake news. Et en fait, on se rend compte que la fiction n'est jamais loin de la friction. Je me permets, nous sommes à part Jupiter. Je vous redonne les références. Le siècle des dictateurs, sous la direction d'Olivier Guèze, est paru chez Perrin.
Merci, Clara Dupont-Monod, pour cette lecture. Vous voulez ajouter quelque chose, Olivier Guèze ?
D'abord, merci pour cet avis par rapport au bouquin. Il y a d'autres points communs chez ces hommes, c'est qu'ils sont tous insomniaques, quasiment tous. Et quelque chose de très frappant, c'est qu'ils travaillent tous la nuit. Comme si l'idée était vraiment de détruire leurs collaborateurs, de les épuiser. Et ils ont un rapport au sexe aussi qui est très très bizarre. Aucun n'a un rapport normal. Mm-hmm. Ça, c'est très très important. C'est tous des sexopathes.
Les hommes qui ont un rapport normal au sexe?
À France Inter, je ne sais pas, mais ailleurs, oui, certainement. Non, mais là, ça va quand même assez loin. Soit c'est des ascètes absolus, type Lénine ou Hitler, ou alors ce sont vraiment des bêtes furieuses. Mm-hmm. Un certain nombre de ces dictateurs avaient des dizaines d'enfants. On leur ramenait littéralement de la chair fraîche tous les jours. Il y a un roman incroyable de Vargas Llosa, l'écrivain péruvien, qui s'appelle « La fête au bouc », qui raconte 30 ans de dictature en République dominicaine sous Trujillo. Et c'est un livre incroyable si on veut comprendre vraiment le mécanisme de la dictature au quotidien.
Olivier Guèze, on va vous soumettre ce dernier sujet avec une seule question parce qu'elle est simple, vous allez la comprendre. C'était une belle réussite, c'est mon duo d'athlétisme au Qatar déjà, faut le dire. On a hâte d'y voir se dérouler la prochaine Coupe du Monde de foot sous 45 degrés dehors, 20 degrés dedans, grâce à 3000 souffleries de climatisation par stade. À ce train-là, on ne sait pas si on ne sera pas mort noyé par la montée des eaux avant de voir la finale, mais on a au moins une chance de la voir, contrairement aux ouvriers népalais.
Une saison de football, c'est long, très long, bien trop long. Alors pourquoi s'embêter à aller jusqu'au bout ? Voilà pourquoi cette semaine, les dirigeants du Qatar ont décidé de se rendre directement au siège de l'UEFA, où ils se sont offerts la Coupe d'Europe pour 5 ans, pour la modique somme de 5 milliards d'euros. Comme ça, ils ont eu tout de suite ce qu'ils veulent depuis le début, et surtout non plus 11 abrutis à gérer. Toute l'année.
Un extrait de Groland. Olivier Guèze, qui est non seulement fan de football, mais qui écrivait le football. On fait pas de procès d'intention au Qatar. On a vu comment ça s'est passé, les championnats du monde d'athlétisme quand même. On fait quoi quand dit l'analyste du monde du football, on fait quoi en 2022? On regarde bêtement les matchs et on avale ça comme ça parce que on peut rien faire.
Non, mais depuis le départ, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu d'abord parce que les conditions ont été très troubles. Alors certes, à peu près toutes les attributions de Coupe du Monde depuis une vingtaine d'années ont été troubles, il y a généralement énormément de corruption, mais c'est un pays qui n'a pas de tradition footballistique, c'est un pays qui va obliger la Coupe du Monde à se dérouler au mois de novembre et puis en fin de saison pendant l'été. On connaît les conditions littéralement d'esclavage hein, des ouvriers, ouais. Et puis il y a les conditions climatiques. Morts, donc c'est une très 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 mauvaise blague, et j'ai peur que quelque part ce soit la fin de l'idée de la Coupe du Monde. Elle a déjà été sérieusement amochée ces dernières années, ouais. Ces dernières éditions, mais là ça va très très loin, parce qu'en fait au fond il n'y a aucune raison d'organiser une Coupe du Monde au Qatar, mm-hmm. Aucune.
Ouais. On est dans l'absurde. Il y a en tout cas une enquête en cours au parquet national financier pour l'obtention de cette Coupe du Monde. Donc,
Est-ce que vous allez arriver à boycotter, ou le fan de foot que vous êtes va quand même jeter un œil ?
On a le temps d'ici 2022. mais, moi, j'ai des rapports assez ambigus au football. À la fois, j'adore ça. Et chaque fois que je m'en suis approché d'un peu trop près, j'ai voulu partir en courant. Et donc, il me fallait toujours plusieurs mois pour me remettre. J'ai suivi la dernière Coupe du Monde en Russie. J'étais là-bas pendant 5 semaines.
Où la Belgique a perdu.
Oui, ça va. Oui. Ok, très bien.
J'étais là, d'ailleurs.
Ouais, oui, nous aussi.
Mais, et donc, cette Coupe du Monde, pendant des mois et des mois, enfin, pendant 3 ans, je pense, chaque fois qu'on me demandera, je dirais, c'est une honte absolue, mais il est très fort probable que je regarde quand même. En fait.
Pas l'opium du peuple, hein, voilà, c'est ça.
J'assume.
Juliette Arnaud. Des questions de Parjupi Proust pour Olivier Guèze. C'est parti.
Sur l'échelle de 0 à 10 de la dictature, 10 étant Adolf Hitler et 0 Charline Van Honecker, alias 0 autorité, vous vous situez à combien ?
Moi, personnellement ?
Oui, tout à fait.
Hitler est à 10.
Oui.
Bon, ça laisse de la marge 3,5.
Oui, ça me semble pas mal. La République, on a bien compris, c'est Jean-Luc. Mais alors, en 2019, la dictature, c'est qui ?
Quoi, en France, ailleurs ?
Oui, par exemple.
Je vais faire plaisir à Guillaume Maurice. Mélenchon, quand même, on sent qu'il y a une envie, ça le démange quand même.
Ouais, il
y a
un truc. En même temps, il serait et la République.
Il y a un truc quand même. Ouais,
répondez le MEDEF, Guillaume, pour équilibrer.
La République, ça va ?
Eu égard à votre passion, on vous embauche pour écrire un grand film d'amour sur la vie sentimentale et érotique d'un dictateur. Lequel ?
Un tropical, c'est sûr. C'est quand même beaucoup plus amusant que Lénine, par exemple, ou Hitler.
Oui, et puis ça fait une jolie lumière,
Castro, c'est vrai. Peut-être, Stroessner, Mobutu, ça doit être pas mal aussi.
Très bien. Avez-vous. Non, on vous êtes dans un incendie. Vous sauvez une statue de Lénine ou une boîte de cigares de Fidel ?
La boîte de cigares, c'est clair.
Plus utile aussi.
Et enfin, par est-ce ailleurs. Que vous avez une petite astuce pour devenir dictateur ?
Un tuto dictateur.
Il y en a. Il faut être insomniaque. Je pense que c'est une. Première base.
Une dernière ?
Oui, parce qu'on comme ça, on a le temps de vraiment de fourbir ses plans, en fait. Et je crois que c'est la base.
Peut-on être un dictateur en suite à capuche ? Non, je ne fais pas de référence à Mark Zuckerberg. Enfin, pas que, enfin, si.
Ah ouais, carrément. De Zuckerberg, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Pour moi, il se comporte comme un dictateur. Il a toutes les attributions du dictateur.
On va refaire une émission, je pense, avec Olivier Guèze, merci.
Avec plaisir.
Olivier Guèze qui publie donc « Le siècle des dictateurs », paru chez Perrin. Vous dirigez donc 22 historiens, écrivains, journalistes qui s'emparent chacun d'un dictateur. On vous recommande chaudement, et donc dans le prochain numéro, Mark Zuckerberg, on l'a bien compris. Merci à tous. À demain, les amis, nous recevrons le professeur de rhétorique qui analyse notamment les discours dans l'émission « Clic » de Mouloud Achour. Nous recevrons Clément Viktorovitch.
Ivanovitch est là.